Ce matin, vous devriez peut-être me voir plus à l'aise. Parce que le thème de ce matin porte sur un thème que je connais. Je ne vais pas dire que je maîtrise, ce serait peut-être paraître prétentieux, mais je connais. Je connais parce que j'ai suffisamment d'expérience dans le domaine dont on va parler ce matin. Alors, ceux qui sont plus vieux que moi vont se dire, bon, Nicolas, expérience, t'as un plus jeune pour parler d'expérience. Sauf que moi, je vais vous donner le thème, vous allez comprendre. C'est un thème qui va parler aux plus jeunes. Et au moins jeune va vous rappeler des bons, peut-être des moins bons, voire des mauvais souvenirs. C'est le thème de l'école. Ah oui, donc j'entends des personnes sourire, et c'est des mots là. L'école. Bon ou mauvais souvenir? Ah non, je vous rassure Laurent, je ne vais pas vous parler de mathématiques, je ne vais pas faire mon cours de mathématiques ce matin, je vous rassure. Tout va bien, restez assis. Mais oui, comme vous le savez, je suis enseignant, donc l'école, je connais un petit peu. La fille déjà peut-être bientôt 20 ans qu'on y est, donc je connais un petit peu. Mais vous pouvez paraître perplexe ou inquiet quand on vous parle d'école. Qu'est-ce que l'école vient faire dans un message dimanche matin? Donc non, je ne ferai pas un cours. Est-ce que le message portera uniquement pour nos jeunes et nos enfants? Est-ce que Nicolas va leur faire la morale pour expliquer à quel point c'est important de suivre les cours, de prendre au sérieux leurs études? Non, pas du tout. Je pense que nos jeunes sont bien conscients de l'importance de leur étude. Et les plus petits, les enfants, ils ont le temps, ça viendra. Alors, pourquoi parler d'école ce matin? Je pense que vous allez deviner en lisant avec moi un verset qui se livre dans les livres des Romains. Livre de Romains, chapitre 12, Romains 12. Et nous allons juste lire le verset. Romains, chapitre 12, verset 2. Dans ma Bible version Semeur, il est dit ceci. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, dans cette version, votre intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Seigneur, je profite de cette occasion pour te remercier pour ta parole. C'est elle qui éclaire nos sentiers. C'est elle qui ouvre nos yeux. Alors Père, je t'invite à nous parler ce matin. Je ne suis qu'un intermédiaire. Un serviteur entre tes mains, je te prie de nous parler à travers ma bouche. Que mon intelligence et mon esprit et ma pensée se taisent. Que ce soit toi qui parle ce matin. Amen. Alors oui, lorsque l'homme prend conscience de sa nature, qu'il est pécheur, il est amené à se tourner vers Christ, son sauveur. Christ est celui qui nous délivre de la mort, du péché. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Mais se savoir pécheur, reconnaître Christ comme son sauveur, c'est une chose, mais cela ne suffit pas. Nous sommes appelés à accepter Christ comme sauveur, mais aussi Seigneur. Nous sommes appelés à le connaître, à discerner sa volonté. Nous sommes appelés à devenir une adoration vivante. Le Seigneur, notre Dieu, pour prendre plaisir lorsqu'il nous regarde vivre. Et donc, afin d'apprendre tout cela, Dieu nous invite dans son école. Nous sommes invités à apprendre à connaître notre Dieu. Et de même que, selon moi, ça n'engage que moi, que la réussite de nos enfants dépend de quatre paramètres. De l'école, bien sûr, de l'élève, même, des parents qui ont relâché et des enseignants, je pense que demain, dans l'école de Dieu, ce matin, ce début d'année, notre Père souhaite nous rappeler quelques principes pour garantir notre réussite scolaire dans l'école divine, l'école de notre Dieu. Si la réussite de nos enfants dépend de quatre paramètres, vous allez voir que dans l'école de notre Dieu, il en est de même. Et si j'aurais bien aimé partager avec vous et développer ces quatre paramètres, je pense que je n'aurai pas le temps, j'aimerais voir avec vous quelques-uns de ces paramètres, si vous êtes d'accord avec moi. Commençons par l'école. L'école de Dieu. D'abord, voyons ce qu'elle n'est pas. L'école de Dieu ne se trouve pas dans le monde. Le chrétien qui cherche à se nourrir spirituellement ne va pas chercher sa nourriture dans le monde. Nous ne sommes pas appelés à chercher à nous instruire en s'inspirant du monde. Le verset me dit bien, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Vous voyez bien que dans nos écoles, vous l'avez été, je l'ai été, il y a des élèves qui sont constamment dans l'opposition. Ils ne sont pas contents. Ils ne veulent pas aller à l'école. Ils n'aiment pas l'école. Et ils ne comprennent pas pourquoi on les oblige à aller à l'école. Pour le chrétien, je pense que la question ne se pose pas. Nous tous croyants sommes tous entrés à l'école de Dieu. Si tu as accepté Christ et que tu n'es pas à son école, il y a un souci. Ou c'est parce que tu ne sais pas que tu y es, mais tu y es à l'école de Dieu. Ou sinon, tu l'as accepté peut-être comme sauveur, mais pas comme Seigneur sur ta vie. Le chrétien cherche constamment à connaître son Dieu, son Seigneur, pour vivre son nom, ses désirs. Romains chapitre 12, verset 2 nous le dit. Nous devons chercher à discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18, 2 Pierre chapitre 3, verset 18 le répète. 2 Pierre chapitre 3, verset 18 nous dit ceci. Progresser sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à apprendre à connaître notre Dieu. Et cela ne va pas se faire du jour au lendemain. Nous ne va pas nous réveiller un matin et dire « Ah, je sais tout de Dieu. » Non. Cela s'apprend. Et pour apprendre à connaître Dieu, nous sommes invités à aller à l'école de notre Dieu. L'éducation nationale a été créée avec un objectif, entre autres, de préparer à l'exercice de la citoyenneté nos enfants, au vivre ensemble, à la vie professionnelle. L'éducation nationale veut aider nos enfants à devenir des hommes et des femmes mûrs, matures, capables de vivre ensemble, s'épanouir en société. Pour l'école divine, notre Dieu nous a fait membres de sa famille. Il nous a adoptés. Il a fait de nous ses enfants. Mais la vérité, c'est que notre corps, ce que nous sommes, est corrompu par le péché. Alors notre Dieu dans cette école veut le faire de nous. Nous qui sommes une nouvelle créature, veut faire de nous des enfants de Dieu à l'image de son Fils Jésus-Christ. Nous devons devenir des enfants capables de vivre ensemble, s'épanouir dans la famille que Dieu nous a donnée. Voilà l'objectif de l'école de Dieu. Vous l'avez été élève, certains le sont encore. À l'école, il y a des règles. Et c'est ce qui embête beaucoup les élèves. Ils n'adhèrent pas, le plus souvent, à des règles qui leur paraissent injustifiées, voire inutiles. Pourquoi les garçons ne peuvent pas porter des boucles d'oreilles? C'est pas dans toutes les écoles, certaines écoles. Pourquoi je dois venir avec un sac à main? Pourquoi les uniformes? Pourquoi on ne s'habille pas comme on veut? Les règles embêtent les élèves. Bon, même certains parents. Sauf que, du moment où vous mettez votre enfant dans une école, vous acceptez les règles qui régissent l'établissement. Du moment où vous mettez votre enfant dans une école, parents comme enfants, acceptent de se plier au règlement intérieur. Comme tout établissement, l'école de notre Dieu a son règlement intérieur. Ce règlement intérieur qui pose un cadre afin de nous permettre de progresser, d'apprendre de bonnes conditions. Et vous savez où se trouve ce règlement intérieur? Dans la parole de notre Dieu, la Bible. Alors vous me direz, oui, mais Nicolas, c'est pas la même chose. Quand je suis entré à l'école de Dieu, je n'ai pas signé le règlement intérieur, je ne connaissais pas toute la Bible. Donc en fait, nous sommes entrés sans avoir signé. Oui et non. Lorsque vous entrez dans l'école de Dieu, vous allez signer, vous allez accepter que la parole de Dieu faisait autorité sur votre vie. Sans connaître le contenu de toute la Bible, vous allez accepter que Dieu serait souverain sur votre vie. Et donc, vous allez accepter d'être soumis à cette parole. Dans un établissement, un élève ne fait pas ce qu'il veut. Il respecte le règlement, sinon il est sanctionné, voire renvoyé. Le chrétien qui fait partie de l'école de Dieu est appelé à obéir au règlement intérieur. Il n'y a pas de « oui, la Bible dit ça, ah, mais celui-là, par contre, je ne pense pas que je... » Non. Vous acceptez d'être soumis à la parole. Lorsque nous avons étudié le sermon sur la montagne, nous avons été rappelés que cette parole est vérité. Il n'y a pas « oui, mais il n'y a pas je prends ça et je retire celui-là. » C'est tout ou rien. Alors, frères et sœurs, l'Assemblée de lui-même, voulez-vous cette année réussir votre année scolaire dans l'école de Dieu en restant soumis à l'autorité de la parole, à tout de la parole. Sommes-nous prêts à réussir notre année scolaire divine? Attention, on dit oui, on s'engage. Est-ce que comme moi, vous avez signé le règlement intérieur pour dire Seigneur, j'accepte d'être soumis à ta parole. J'accepte de me mettre sous ton autorité. J'accepte de faire tout ce que tu me demanderas. Quand on signe, on signe. Êtes-vous prêt? Avez-vous signé? Je ne vous demande pas si vous avez signé. Si vous avez signé, vraiment, vous avez déjà signé. Est-ce que vous regrettez cette signature? Êtes-vous prêt à continuer? Alors, pour réussir à l'école de Dieu, il y a quelques paramètres à prendre en compte. Parlons déjà du professeur. Alors, les parents que les élèves se plaignent des professeurs. Ils ne sont jamais contents. Et s'il est vrai que les élèves peuvent se montrer parfois très difficiles à satisfaire, il est vrai aussi que les professeurs ne sont pas parfaits. Ce ne sont pas des machines, ce ne sont pas des robots. Ils sont perfectibles. Et oui, c'est vrai, il y en a qui sont plus professionnels que d'autres. C'est le cas dans tous les métiers. Cependant, à l'école divine, le directeur principal, le proviseur, celui qui fait office de professeur principal, notre Dieu, lui, n'a aucun défaut. Alors que nous, enseignants, nous pouvons nous plaindre d'avoir des classes surchargées. Comment faire pour enseigner à 25, 30 élèves? Ils sont tous différents. Il y a un qui est à l'aise. Je fais mon exercice en 2 minutes. L'autre, il faut 20 minutes. Comment je fais? Notre Dieu, il est capable de s'occuper d'un plus de 1 milliard d'élèves en même temps. Alors qu'il est même compliqué de retenir les prénoms de chacun de nos élèves lorsqu'on a une centaine d'élèves par an. Notre Dieu connaît le nom de chacun d'entre nous. Notre Dieu peut nous apporter un enseignement adapté à chacun d'entre nous. Il nous a dit ceci. Je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller. Mes yeux veilleront sur toi. Somme, chapitre 32, verset 1. Psaume 32, verset 8. Il connaît chacun d'entre nous. C'était déjà le cas avant même que nous soyons dans le ventre de notre mère. Jérémie, chapitre 1, verset 5. Notre Dieu, donc, n'a pas de lacune, n'a pas de défaut. Il diffuse un enseignement adapté à chacun d'entre nous, car il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait faire preuve dans son enseignement de patience, de compréhension. Et à travers son enseignement, il n'a qu'un seul objectif, ce qu'il a commencé en vous, son œuvre bonne, il la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Il a commencé un travail et il va le mener jusqu'au bout. Mais comme je l'ai dit ce matin, il m'invite à mettre l'accent sur quatre paramètres et je voudrais juste m'attarder sur un en particulier. Je suis passé un peu rapidement sous l'école, sous le directeur, notre Dieu. Et aujourd'hui, je vais m'attarder sur un point. Nous, les élèves de l'école de Dieu. Une nouvelle année a commencé. En général, à l'école, à la fin de chaque année, et c'est le cas pour chaque trimestre, donc trois fois par an, il y a ce qu'on appelle le conseil de classe. Vous vous en rappelez du conseil de classe? Après ce conseil de classe, il y a la rencontre tant redoutée pour les élèves, la rencontre parent-professeur. Alors quand tout va bien, ça ne nous gêne pas, mais bon, c'est que ça n'a pas trop allé, pas trop été, on n'est pas trop impatient de voir les professeurs. Effectivement, de nos jours, même nous les professeurs, on est désolé de constater qu'il y a de moins en moins de parents qui viennent. Chaque année, je ne vois même pas le tiers. Mais la question se pose, l'année 2023 est finie, êtes-vous allé à votre rencontre par vos professeurs? Je parle de l'école divine. Avant d'entamer l'année 2024, avez-vous cherché à faire un bilan de votre année scolaire spirituelle? Lorsque votre professeur, votre Dieu, vous a reçu, était-il content de vous ou s'attendait-il à mieux? Quelles étaient ses attentes en 2023? Avez-vous atteint ses objectifs? Connaissez-vous ses attentes pour l'année 2024? Comment réussir notre année 2024, notre année à l'école de Dieu? Pour cette réussite, je veux voir trois points avec vous. D'abord, premier point, le temps. Combien de temps passons-nous à l'école de Dieu? Afin d'atteindre cet objectif, l'éducation nationale peut compter sur le temps que les élèves passent à l'école. En effet, une journée dure 24 heures. Nos enfants devraient dormir en moyenne, au moins 8 heures par jour. Les enfants vont dormir 8 heures par jour à se lever. Une fois qu'on enlève ces 8 heures, en règle générale, si je me base sur moi-même, je dépose ma fille vers 7 heures du matin. Il est possible de la récupérer en général vers 16 heures. Donc, en général, nos enfants passent 9 heures à l'école, plus que le tiers d'une journée entière. L'éducation nationale estime donc que l'enfant doit passer un tiers de sa journée en classe pour devenir citoyen. Vous devinez la question que je vais vous poser? En tant qu'élève, combien de temps passez-vous à l'école de Dieu? Combien de temps passons-nous à son école pour devenir des hommes et des femmes spirituellement matures? Cette semaine à la radio, dans une émission, j'ai entendu une information qui m'a fait froid dans le dos. À travers un sondage, ils se sont interrogés pour savoir combien de temps les chrétiens passaient dans la prière. Les chrétiens. C'est une moyenne. Selon vous, combien de temps passons-nous dans la prière? En moyenne, une journée 24 heures. Pendant la journée, on passe combien de temps à la prière? J'entends 10 minutes. Oui, c'est un sondage moyen, si vous basez sur vous-même, selon vous. Tous les chrétiens passent combien de temps dans la prière? En moyenne? 1 heure? 10 minutes? 5 minutes? Vous êtes prêts à oublier? D'après ce sondage, les chrétiens, alors que la journée est constituée de 24 heures, les chrétiens, en moyenne, passent à la prière 1 minute. Alors attention, c'est une moyenne. Ça ne dit pas que tout le monde passe 1 minute. Attention. Il y en a qui font plus, il y en a qui font moins. 1 minute. Matin, Seigneur, merci pour la nuit. Tu vas passer une bonne journée. 30 secondes.
Merci pour le repas.
À midi, Seigneur, merci pour le repas. Bénis le repas. 15 secondes. Le soir, Seigneur, merci pour la journée. Merci pour moi, Nanaï. 15 secondes. 1 minute, 24 heures. Et voilà. Ça fait peur, n'est-ce pas? Et pourtant, notons que à l'école de Dieu, il n'y a pas que la prière. Mais déjà, la prière ne prend pas 1 minute. Pendant que nous y sommes, je vais profiter pour attirer votre attention sur un autre point. Alors, effectivement, nos enfants sont censés dormir 8 heures. Ils passent 9 heures à l'école. On peut supposer que pour les emmener et ramener à la maison, on passe 1 heure sur la route. On peut leur accorder au minimum 1 heure pour le travail, apprendre les leçons. Et il faut ajouter encore que, malheureusement, ils passent à peu près 2 heures devant les écrans. Et là, c'est moyen, il y en a qui vont jusqu'à 4 heures. Sachant que je n'ai constitué que de 24 heures, je ferai le calcul pour vous. Il reste, on a vu tout ça, 3 heures. Sur 24 heures, il reste 3 heures à passer avec vos enfants. D'où la question, qui éduque nos enfants? Est-ce que nous sommes vraiment les éducateurs de nos enfants lorsqu'il nous reste 3 heures sur 24? Et j'ai mis une moyenne, j'ai mis pour les écrans 2 heures. Si l'enfant passe 3 heures, voire 4 heures derrière son écran, ça veut dire qu'il ne reste que 2 heures, 1 heure pour ses parents. En fait, l'écran est plus l'éducateur que le parent lui-même. C'était une parenthèse, je ferme la parenthèse. Mais que Dieu protège nos enfants. Alors, revenons à nos écoles. N'est-il donc pas si étonnant que nous passons si peu de temps avec notre professeur? Lui qui a à notre disposition 24 heures sur 24. Voulons-nous vraiment réussir notre année scolaire divine? Où est notre priorité? Combien de temps consacrons-nous au monde? Et combien de temps consacrons-nous à Dieu? Vous vous rendez compte que souvent lorsqu'on se pose la question, on réfléchit et on se dit, ah oui, mais il y a le travail, il y a la maison, il y a les enfants, du coup, il ne reste pas beaucoup pour Dieu. Dans ce raisonnement, il y a un gros problème. On en vient à se dire, il ne reste pas beaucoup pour Dieu. Donc, nous réservons le reste à notre Dieu. Notre Dieu, pour lui, ce sont les restes. On peut même pousser le bouchon en allant plus loin. En plus de ça, j'ai le service à l'église. Je dois faire ça, je dois faire ça. Encore plus, la faute de Dieu. Il m'a dit faire ça à l'église, donc j'en prends moins de temps pour lui. C'est sa faute. Pensez-vous vraiment que Dieu nous cherche en tout cas à nous éloigner de lui? Ce n'est pas son objectif. Donc s'il y a quelque chose qui nous éloigne de Dieu, s'il y a quelque chose qui nous empêche d'avoir du temps avec lui, nous devons vous poser des questions. Si nous sommes de moins en moins assidus à son école, posons-nous les bonnes questions. Il en va de notre réussite scolaire à l'école de Dieu. Durant l'année 2023, ce que je peux partager avec vous, j'ai senti que Dieu m'appelait à m'investir plus dans son service à l'église. Mais le travail est prenant. Il faut travailler. Chacun de nous, dans notre travail, nous avons des responsabilités. Moi, je suis responsable des élèves. Est-ce que je dois faire moins bien? Difficile pour moi qui ai tendance à être un petit peu perfectionniste. Je ne me contente pas du moyen, je veux faire de mon mieux. Et cette année, comme par hasard, c'était mon année d'inspection. Quelqu'un allait venir voir ce que je faisais pour m'évaluer le lycée. Alors, en règle générale, les enseignants font tout pour que tout se passe bien. D'ailleurs, ceux qui ne faisaient pas l'habitude, maintenant ils font tout déjà. Quitte à passer du blanche, il faut que tout soit parfait. on nous prévient, on connaît la date, donc pas de souci, on sait se préparer. Sauf que pour moi, ça ne s'est pas passé comme ça. Un jour, je reçois mes élèves, tranquille, asseyez-vous et tout. Et bizarrement, je vois mon inspecteur apparaître. Bonjour, monsieur Grand. Quand il a vu ma tête, il a compris que je ne l'attendais pas. Vous n'avez pas eu mon message? Ah non, je n'ai pas eu le message. Ah, pourtant, je vous ai envoyé le message. Ah. Je supposais que j'avais fait gaffe et pas regardé le message. J'aurais pu refuser, parce qu'on a le droit, parce que bon, il y a un petit coco, mais je me suis dit, bon, il est déjà là. Tant qu'à faire. Pourtant, y aller, bon, j'ai l'habitude de me bien me préparer, on va pas tout si tout bien se passe. Et effectivement, tout s'est bien se passe. Je n'avais rien fait de particulier, mais comme d'habitude. Donc, je me suis dit, super, bon, c'était pas prévu, mais ça s'est bien passé, donc c'est réglé, c'est bon. Malheureusement, à la fin, elle me dit, monsieur Durand, c'était bien, il y avait ça, mais il faut qu'on fixe un rendez-vous. Je lui dis, faire quoi? Ben, pour l'inspection. Et je lui dis, c'était pas une inspection, c'était déjà, c'est bon, t'es déjà. Ah non, 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 c'est pas officiel, j'étais déjà là, mais j'étais pas au courant. Mais si j'étais bon, t'es pas que c'est bon, et puis, si l'autre n'est pas bon, mais t'es bon, et ça va. Non, non, faut qu'on prenne un rendez-vous. On a refait. On prend rendez-vous. On a pris rendez-vous et puis, finalement, je l'ai pris à la légère. Je l'ai dit, la première fois, tu as fait un particulier, tu as fait ton travail, ça s'est bien passé. Pourquoi ça va changer? Pareil. J'ai fait tranquillement mes affaires et elle est revenue. Ça s'est passé, elle m'a dit c'est bon, il y avait ça qui n'allait pas et tout et tout et tout. Et vous savez, les inspecteurs, ben, après, ils rentrent chez eux. Et puis c'est beaucoup plus tard qu'on reçoit notre compte rendu, notre notation. Bizarrement, j'ai attendu très longtemps. Je ne sais pas, ça a tardé pratiquement un an. Ah, elle a dû déroger. Donc vous supposez que ça m'a inquiété un petit peu. Comment un an, elle va se rappeler ce qu'elle a vu l'année dernière? Je suis un petit peu inquiet. Eh bien, sachez que c'est la première fois que j'ai une aussi bonne notation. Dieu s'occupe de tout. Il m'a demandé de peut-être prendre, pas peut-être, il m'a demandé de prendre plus de temps dans son service en me disant, t'inquiète pas, pour l'école, je m'en occupe. C'était ma dernière inspection, dont j'ai terminé sur une très bonne note. Des choses que je n'avais jamais vues. Notre Dieu ne veut pas des restes, il veut tout. Nous devons lui faire confiance. Et s'il y a quelque chose qui nous prend du temps, nous devons nous poser la question. Pourquoi? Est-ce que c'est moi qui suis mal organisé? Il y a quelque chose que je fais mal. Est-ce que Dieu voudrait m'éloigner de lui? Pas du tout. Pas possible. Alors, si quelque chose t'éloigne de notre Dieu, pose-toi les bonnes questions. Seigneur, tu m'as donné tel poste, telle tâche, telle mission, telle responsabilité. Mais cela me coûte du temps. Montre-moi comment faire. Montre-moi comment m'organiser. Montre-moi si je ne suis pas à la bonne place, si ce n'est pas là que tu voudrais que je sois. Comment espérer connaître Dieu si on ne passe pas du temps avec lui? Si quelqu'un vient me voir pour me raconter des propos injurieux qu'il a entendu ma femme prononcer dans les mots qui sortent de sa bouche. Oui, tel jour j'ai vu ton épouse, elle s'est énervée, elle s'est fâchée avec telle femme, oui, les nombreuses heures volées, il y avait des moments, les tu es, et l'histoire. Elle n'est pas parfaite et peut se fâcher, comme nous tous, moi aussi. Mais je la connais. Je connais son vocabulaire, les mots que tu utilises là, ça ne fait pas sortir de sa bouche. Donc je t'arrête tout de suite. Non pas parce que je juge qu'elle est parfaite, qu'elle ne peut pas se fâcher, c'est possible. Mais je la connais. Je sais qu'il y a des mots qui ne peuvent pas sortir de sa bouche. Il arrive que des fois, heureusement, je vais faire plaisir à mon épouse. Donc je lui achète des fois des petits gâteaux. Des pâtisseries. Malheureusement, ça n'a pas l'effet escompté. Elle est contente. Elle m'a dit, après tout ça de temps, tu sais toujours pas que je n'ai pas ce gâteau-là. Comment ça se fait? Lorsqu'on vit avec quelqu'un, on apprend à connaître cette personne. Malheureusement, des fois, on ne fait pas attention à tous les détails. Plus nous allons passer du temps avec notre Dieu, plus nous allons apprendre à connaître. Il y a le proverbe français qui dit ceci. Dis-moi qui tu fréquentes, qui je te dirai qui tu es. Nous devons passer du temps avec Dieu. Et plus nous allons passer du temps avec lui, et plus cela va se voir. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, en 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Plus nous regardons notre Dieu, plus nous admirons notre Dieu, plus nous sommes transformés. Nous devons passer du temps à l'école de notre Dieu. Il arrive que nous ayons peur lorsque nous avons des campagnes d'évangélisation. Qu'est-ce que je vais dire? Va-t-on me poser une question qui va me coincer? En campagne d'évangélisation, nous sommes juste appelés à parler de notre Dieu. Ce Dieu que nous connaissons. Je vais parler de lui parce que j'ai une relation avec lui. Parce que je suis souverain avec lui. J'ai appris à le connaître. Alors malheureusement, si vous êtes comme moi, bon, pour réciter des versets, donner des références, c'est difficile. Moi, j'ai une mémoire d'oiseau, j'ai du mal à les retenir. C'est pas grave. Je peux dire à la personne, mais je vais t'envoyer les références, les versets dans lesquels je te parle. Mais je suis en mesure de parler de Dieu, parce que je le connais. Le chrétien est appelé à passer du temps à l'école de Dieu. La première chose à laquelle nous faisons attention, c'est le temps. Soyons assidus à l'école de notre Dieu. Le deuxième point, on a très souvent tendance à négliger notre santé. Pensez-vous que les soldats de l'armée de Dieu sont appelés à être toujours fatigués? Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Et si les soldats sont fatigués, l'armée ne fera pas grand-chose. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Nous chantons, nous sommes l'armée du roi. Mais si quand on sort, on voit les gens fatigués, l'armée du roi. Vendredi, il y a un collègue qui est venu me dire, mais Nicolas, j'ai fait un cours particulier à donner à mon neveu et il était à moitié endormi. Je l'ai envoyé dormir. Va dormir, va dormir. Après une heure, deux heures de sieste, il est venu. Là, il était prêt à travailler. La santé, c'est un vrai problème. Nous sommes entrés il y a à peine une semaine. Lundi 8 janvier, 7h30, j'ai des élèves qui dorment sur la table. C'est possible. Après deux semaines de vacances, si tu dors déjà, on a 6 semaines à tenir avant qu'on arrive. Comment tu sais? C'est un vrai problème, le sommeil, la fatigue. Mais il en est de même à l'école de Dieu. Avez-vous déjà essayé de prier, de lire la parole et d'en fatiguer? Mais j'ai essayé. Il y a quelque chose qui m'étonne. En étant fatigué, on peut rester des heures devant l'écran. C'est rien, un bon film, on y arrive. Hein. Mais si vous êtes fatigué, vous prenez la Bible, une minute, vous voyez
Moins d'une minute.
Moins d'une minute. C'est fou ça quand même. Alors, comment voulons-nous apprendre à l'école de Dieu si nous sommes fatigués? Les chrétiens que nous sommes, élèves de l'école de Dieu, nous devons faire attention à notre santé. Vous imaginez en campagne d'évangélisation, je prends pour le même. Bonjour, comment allez-vous? Ah, je suis fatigué. Ah, toi aussi, moi aussi. Mais Dieu va faire me reprocher comme moi. Ça ne marche pas. Ça passe pas. Le chrétien en bonne santé. C'est bonjour, comment allez-vous? Ah, vous êtes fatigué. Moi aussi, mais je suis avec Dieu, j'ai la forme. Est-ce que tu veux connaître ce Dieu? Là, ça passe. Vous imaginez comme un évangélisation comme ça, bonjour. Et si par hasard la personne vient, elle accepte, elle vient. et bien voir 80 personnes fatiguées. On dit oui, Dieu va guérir, mais fatigué. Celui qui fait la présidence, ceux qui ne sont pas fatigués, levez-vous à prier avec ceux. On est fatigué. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas aller. Je tiens avec le plaisir de partager une étude. On a commencé avec Genèse, avec la création. Les serviteurs nous ont rappelé que le projet de Dieu, c'était que l'homme vive dans son repos. Adam et Ève ont été créés pour vivre dans le repos de Dieu. Et ce repos se trouvait dans sa présence. Le chrétien qui vit et qui évolue dans l'école de Dieu, dans sa présence, reste en repos. Je ne dis pas qu'il ne sera jamais fatigué. Mais même dans la fatigue, il est dans le repos de Dieu. Physiquement fatigué, spirituellement en plein train. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont tendance à négliger leur corps, leur santé. Je ne suis pas là pour vous accuser, je suis à l'aise pour le dire, j'en fais partie. J'espère que j'en faisais partie. Durant l'année 2023, j'ai souffert atrocement d'une dent. Quand la douleur est devenue insupportable, j'ai dû chercher un dentiste. Vous savez à quel point c'est difficile de trouver un dentiste. J'étais à l'hésite à pleurer au téléphone pour dire non, mais franchement, fais quelque chose pour moi. Difficile de trouver un dentiste. Et quand j'ai pu en trouver un, et je me suis trouvé à manger devant le dentiste, j'ai ouvert la bouche. Le dentiste m'a dit, monsieur Pumon, comment faites-vous? Vous exagérez? Une dent dans cet état? Mais vous devez souffrir trop souvent. Il y en a qui arrivent aux urgences pour moi que ça. Mais bon, je tenais. Vous tenez. Ce n'est pas possible. Et quand il a donné des médicaments pour me soulager, parce qu'il ne pouvait pas réparer tout de suite, elle dit, monsieur Durand, je vais réparer celle-là. Mais il y a celle-là, 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 celle-là. Alors, vous imaginez bien que je n'ai pas pu faire comme un speaker qui profite de toutes les occasions pour parler d'évangélisation. Je n'allais pas sortir, vous savez, je suis chrétien, par les deux dieux, mais dans la rue. On se tait, on sort, et on dit à la prochaine. Mais c'est pas sérieux. Ce corps, c'est Dieu qui nous l'a donné. On doit en prendre soin. Combien d'entre nous souffrent sans aller se faire soigner? Convaincu que Dieu va nous guérir, Dieu va faire. Il y a une chose dont je suis convaincu. Dieu veut faire. Dieu ne prend aucun plaisir à devoir souffrir. Il veut nous soulager. Il veut guérir. Mais ce n'est pas à nous de décider comment il va faire. Quand je dis « je vais nulle part, Dieu va faire », en fait, je lui impose de faire pendant que je suis à la maison. C'est moi qui lui dis comment faire. Dieu veut faire, est-ce qu'on lui laisse la possibilité de faire? Et si son désir c'était d'œuvrer à travers un médecin? Vous savez qu'il y a des enfants de Dieu qui sont médecins. On a un exemple. Je ne regarde personne, mais donc vous savez qu'il y a des enfants de Dieu qui sont médecins. Alors pourquoi on se dit non, pas les médecins, tu vas faire? Ce n'est pas à nous de décider. Dieu veut faire, mais c'est lui qui décide quand. Si après il vous a parlé, il vous a dit non, je vais faire ce chez toi. Là, je dis ok. Mais pourquoi le chrétien a peur des médecins? Dieu va faire. Nous sommes les enfants du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes les enfants du roi des rois, princes et princesses. Vous imaginez les princes et les princesses toujours malades, toujours fatigués? Quel est notre témoignage? Ça ne marche pas. Le chrétien est appelé à prendre soin de son corps pour être capable de suivre les cours que Dieu a donné dans son école. Le chrétien doit prendre soin de lui. Nous devons être sages en choisissant ce que nous mangeons. Le chrétien doit se montrer sage. Et avant, on nous l'a dit, des activités régulières pour être en bonne santé. Bien sûr, en fonction de notre âge, de notre capacité. Je ne vous demande pas d'aller courir dès le matin pour vous inscrire dans les salles de sport. Je n'ai pas dit ça. Mais nous sommes appelés à prendre soin de nous. Je fais un bref retour, je reviens sur le temps. Dieu ne nous invite pas à travailler même pour lui jusqu'à l'épuisement, c'est faux. Mais souvent, on se sent obligé de faire certaines choses. Pourquoi? Certains d'entre nous, et j'en fais partie, donc j'accuse personne, accumulent les services, les missions au sein de la communauté, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. J'en parle parce que ça me concerne aussi. Il faut qu'on arrête ce type de raisonnement. Je pense, je suis convaincu que Dieu n'a que faire d'une église fatiguée. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît nos compétences, nos capacités, nos aptitudes. Il sait parfaitement ce dont nous sommes capables. Avec les moyens que Dieu nous a donnés, nous ne sommes pas appelés à faire quantité de choses. Nous sommes appelés à faire des choses de qualité. Ce n'est pas la même chose. Dieu veut nous voir nous épanouir dans sa présence, pas nous épuiser. Si tu ne prends pas plaisir à œuvrer dans quelque chose à l'église, si tu n'es pas épanoui dans un domaine, demande à Dieu si tu es au bon endroit. Seigneur, dans ton école, suis-je dans la bonne classe? Suis-je à la bonne place? Et n'hésite pas, viens voir tes pasteurs, les anciens qu'on en discute. Je veux, notre Dieu veut, et je veux aussi, nous voir épanouis. Si j'arrive, je vois 30 visages fatigués, je me dis merci, Seigneur. Où a-t-on la force de servir? Alors, les élèves que nous sommes sont appelés à faire attention au temps, à notre santé. Et pour terminer, nous devons faire attention au travail, tout écolier doit travailler. Les étudiants sont appelés à travailler. Nous sommes appelés à travailler. Mais ce travail dans l'école de Dieu est assez particulier. Notre professeur divin nous dit ceci. Si tu veux réussir, laisse-moi faire. Abandonne-toi entre mes mains et c'est moi qui vais travailler pour toi. En toi. Des profs comme celui-là, il n'y en a pas de vrai. Retenons que pour évoluer dans cette année scolaire spirituelle, nous devons le laisser faire. Laissez-le vous transformer. Et il faut bien comprendre cette partie. En préparant ce message, le Seigneur m'a montré une erreur que je commettais. Quand Dieu nous interpelle à travers une émission, une étude, une prédication, un verset, nous sommes convaincus que nous devons changer quelque chose. Ce n'est pas tout à fait vrai. Dans ce cas-là, nous sommes, dans les jours suivants, prêts à faire attention à toute chose. Le Seigneur m'a dit, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Donc, chaque minute, il faut que je fasse attention. Chaque heure, il faut que je fasse attention. Il ne faut pas que je dise des choses, il ne faut pas que je me mette en colère. La semaine d'après, dimanche, autre chose. Ah, il faut que je fasse attention à ça aussi. Donc lundi, je dois faire attention à ça, mais attention à ça, mais attention à ça, mais on s'en sort pas. Il y a deux mois de ministre ici. C'est pas ce que le Seigneur fait. Nous commettons une erreur. Quand le Seigneur prend du doigt quelque chose, on est convaincu que nous devons changer quelque chose. Non. Nous n'avons rien à faire. Dieu pointe du doigt non pas ce que nous devons changer, il pointe du doigt ce que lui, il veut changer. C'est pas pareil. Ça change tout. Lorsque j'entends un message, avant de me précipiter pour dire je veux que tu fasses attention à ça, il faut que tu fasses attention à ça. Non. Je me tourne vers Dieu. Seigneur, tu me montres que tu veux changer telle chose. Je m'abandonne entre tes mains pour que tu puisses faire cette transformation. Je te laisse faire. C'est d'abord se tourner vers Dieu. Et plus je vais passer du temps avec lui, plus il pourra opérer la transformation qu'il veut. Nous n'avons rien à faire. Nous sommes incapables de faire quoi que ce soit par nous-mêmes. Le Seigneur le dit. Celui qui demeure en moi et en qui je ne meurs pas beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Enfin, par renouvellement, parce que c'est ce qui nous est dit donc, dans le verset que nous avons lu, pour mettre au verset 2, je relis, excusez-moi, c'était. Au même tout verset 2 nous disait, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Par renouvellement, il ne faut pas comprendre remise à niveau régulière, remise à zéro, pas tout à fait. Dieu n'efface pas tout chaque jour pour remplacer encore par autre chose. Par renouvellement, je pense que nous devons comprendre plutôt rafraîchissement. Dieu est au travail tous les jours, si nous le sommes travaillés. Pensez-vous qu'il fasse des erreurs? Non, ce n'est pas possible. S'il recommence à zéro, ce serait admettre à chaque fois, chaque jour, que ce qu'il a fait la veille n'était pas bon. Dieu opère petit à petit des transformations, des corrections, des ajustements. C'est comme à l'école. Tout au long des classes, lorsqu'ils sont au primaire, j'espère que vous en rappelez, mais on a toujours appris aux enfants primaires qu'il est impossible d'enlever une valeur dans quelque chose qui est plus petit. Je répète. Essayez avec un enfant de primaire lui dire, tu sais, j'ai 200 euros sur mon compte, je vais enlever 300 euros. Il va vous avec les beaux yeux. Tu as 200 euros, tu vas enlever 300 euros. Mais non, papa, c'est pas possible. C'est ce qu'on leur a appris. Et pourtant, ils vont au collège, ils ouvrent les yeux et se disent, ah mais finalement, lorsqu'ils apprennent qu'il y a des noms avec des moins, ah, donc c'est possible. Mais pourquoi on nous a menti avant? Là, je vais leur dire, non, oui, mais vous n'étiez pas prêts à recevoir. Par contre, avec vos collèges, on a supposé que vous êtes suffisamment mature pour comprendre le petit moins qui est devant le monde. Dieu s'est parlé. Il sait exactement à quel moment vous donner tel ou tel enseignement. Donc, il ne faut pas voir ça comme un renouvellement. C'est juste un rafraîchissement, des ajustements. Le Seigneur est le meilleur pédagogue que nous pouvons avoir. Alors, cette perception, c'est vrai, elle regarde très loin. Mais moi, lorsque je lis ma vie, parce que je comprends. J'ai l'impression que Dieu ne nous montre pas chaque jour ce que nous devons changer. J'insiste. Il nous montre simplement ce que lui, il veut changer en nous. Il ne cherche pas un changement ponctuel qui va durer 2-3 semaines. Nous essayons de nous changer. Dieu, lui, veut nous transformer de manière profonde. Et c'est totalement différent. Le chrétien qui cherche à se changer lui-même pour un échec. On ne peut pas vivre constamment sur le qui-vive. Je dois faire attention à ce que je dis. Je dois faire attention à ce que je fais. Je dois faire attention. Mais non, c'est pas possible. Par contre, nous sommes invités à passer du temps avec notre Dieu. Lorsque nous avons compris ça, forcément, nous passons du temps avec notre Dieu. Dès le matin, je sais que je peux me tourner vers Dieu et dire, Seigneur, tu m'as montré qu'il y a des choses à changer. Je compte sur toi pour que durant la journée, ton esprit puisse m'aider à faire les choses correctement pour te faire plaisir. Et en fin de journée, je peux retourner voir mon Seigneur encore, lui dire, Seigneur, tu m'as permis de passer une journée convenable. J'espère t'avoir fait plaisir. Et s'il y a quelque chose qui n'a pas marché, montre-le-moi. Et je sais encore compter sur toi pour le transformer. Le chrétien ne compte pas sur ses propres forces. Il compte sur son Seigneur. Alors, je vous ai parlé de l'école, je vous ai parlé de notre bon professeur, je vous ai parlé de nous en tant qu'élèves. Je vais terminer sans m'attarder beaucoup de temps des autres professeurs. Parce que oui, il y a d'autres professeurs. Il y a beaucoup de chrétiens qui dévichent vers l'école, qui préfèrent l'école à la maison. Oui, l'école à la maison a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Certains pensent que justement l'école à la maison a ce défaut de ne pas permettre la sociabilisation des enfants. En effet, selon eux, le citoyen se forme au contact des autres. Je pense que c'est la même chose à l'école divine. Les élèves chrétiens apprennent à vivre en communauté, en famille, en se supportant, en se soutenant, en s'encourageant, en se conseillant. Je cherche à me transformer au contact des autres. Je ne peux pas apprendre à aimer les autres si je reste toujours de mon côté. Je ne peux pas apprendre à pardonner si je suis quelqu'un d'isolé. Je ne peux pas apprendre à tenir ma langue si je suis toujours à la maison tout seul. Vous avez une technique d'apprentissage utilisée à l'école, c'est le tutorat. On peut demander à l'élève qui est à l'aise d'aider un élève qui est en difficulté. C'est pareil dans l'école de Dieu. Nous sommes tous différents. Certains ont des dons, des talents, mais tous différents. Dieu utilise chacun d'entre nous pour aider chacun d'entre nous. Nous avons tous besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous pour grandir. Vous avez besoin de moi pour grandir. Éphésiens 4, chapitre 11 à 13, dit ceci. Celui qui a fait don de certains comme apôtre, d'autres comme prophète, d'autres comme prédicateur, d'autres encore comme parent berger, comme enseignant, il a fait don de ses hommes pour que les membres du peuple soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu. Tous ensemble, nous œuvrons les uns pour les autres. Tous ensemble, que je le veuille ou non, j'ai besoin de vous pour grandir. Vous avez besoin de moi pour grandir. Nous sommes appelés à vivre en famille, à vivre l'unité. Nous l'avons chanté. Il faut que cela soit vrai. Ne sois pas bien faire semblant. Il faut que cela soit vrai. Ce matin, s'il y a quelque chose que nous devrions retenir, je le répète, c'est qu'à l'école de Dieu, en tant qu'élève, nous devons faire attention à plusieurs paramètres, mais ce matin, j'attire votre attention sur trois paramètres. Si vous voulez grandir, vous devez passer du temps avec votre Dieu. Si vous voulez grandir, vous devez faire attention à votre santé. Si vous voulez grandir, vous devez laisser le Seigneur travailler pour vous. Nous n'avons qu'une chose à faire, le laisser faire. Nous n'aimons pas ça. Nous aimons être au contrôle. Le chrétien laisse son Seigneur être au contrôle. Pour cette année scolaire divine, prenons notre réussite à tous. Passons du temps avec notre Dieu. Prenez soin de chacun d'entre vous. Ce corps, c'est Dieu qui l'a donné. Et laissons-le nous travailler. Je vais prier avec vous. Seigneur, par ton sang, nous avons la vie éternelle. Seigneur, tu nous as donné cette nouvelle vie, cette vie éternelle. Et tu as fait de nous de nouvelles créatures. Cette nouvelle vie, nous voulons la passer autrement qu'avant. Nous voulons prendre conscience que nous ne sommes plus du monde. Nous ne voulons plus fonctionner comme avant. Nous voulons apprendre à te connaître. Apprendre à faire ce qui est bon. Ce qui est agréable à tes yeux. Nous voulons apprendre à faire ton plaisir. Pour cela, Père, nous voulons être assidus. Nous voulons être constamment dans ta présence. Apprendre dans ton école et te laisser nous travailler. Père, pardonne-nous si nous avons négligé le temps que nous devions passer avec toi. Père, montre-nous quels sont ces freins. Quelles sont ces barrières qui nous prennent trop de temps? Montre-nous comment ne pas te laisser les restes. Montre-nous comment te donner la première place. C'est quelque chose que nous avons si souvent l'habitude de dire. Nous voulons que ce soit une vérité durant cette année de 2024. Nous voulons passer du temps avec toi. Et te laisser agir en nous. Car c'est toi qui as la capacité de nous transformer. De nous changer. Le vieil homme, il est toujours là. Et malgré qu'on ait essayé de le noyer, il est encore fort. Nous avons du mal à lutter contre lui. Mais toi, tu es plus fort que lui. C'est toi qui vas vraiment le noyer totalement, qui ne remonte pas. C'est toi qui vas nous transformer. Nous savons que nous pouvons compter sur toi. Rends-nous docile entre tes mains. Rends-nous flexible entre tes mains durant cette année 2023, afin que nous puissions te laisser nous transformer. Seigneur, je te remercie parce que ce que tu dis, tu le fais. Tu as dit que tu penseras à chacun d'entre nous. Tu nous as dit que c'est toi qui vas nous instruire. Alors nous voulons tout simplement